Je fais un peu de place. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va, vous avez passé des bonnes vacances, pour ceux qui en ont eu. Je voulais juste vous dire, avant de commencer le message, je suis très très heureux de vous voir. Comme Jean vous disait, je suis de retour après plusieurs semaines de colo, camp, merci. Colo, camp, vacances. Et donc c'est trop une joie juste de vous retrouver, de vous voir et d'être de retour à la maison, si je puis dire. Et du coup, voilà, comme je viens de dire, je rentre de vacances et pendant cet été, j'ai l'occasion de réfléchir à différentes questions qui me semblaient importantes. Et le fruit de ces réflexions, je me suis dit, il faut absolument que je le partage à d'autres personnes. Et ça tombait bien, j'étais sur le planning ce matin. Donc sachez que ce que je vous partage, c'est avant tout des choses que moi, personnellement, je suis en train de réfléchir, de travailler. Et voilà, je prie que ça puisse nous bénir tous comme ça m'a béni cet été. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Je ne sais pas où j'ai mis la zapette, c'est pas grave. Une question. Qu'est-ce qui serait pour vous une année réussie? Je vous laisse quelques minutes, je vous propose quelques instants, en tout cas de réflexion, pour nous dire, pour voilà, peut-être écrire sur votre téléphone quelque part. Qu'est-ce que ce serait pour vous une année qui serait réussie? Je parle d'une année scolaire, l'année à venir qui commence. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et vous faire une réponse à ce sujet. Alors peut-être pour certains parmi nous, on va penser à des examens réussis, on va penser à une promotion au travail, l'achat d'une maison, fonder une famille, toutes sortes de choses qui pourraient ressembler à une année réussie. Et cet été, je me suis vraiment posé cette question, mais c'est quoi la réussite? C'est quoi réussir? Quand est-ce que je peux dire que ma vie est réussie? Et il y a un personnage en particulier qui m'a interpellé à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez comme moi des personnages dans la Bible où vous vous dites « je me reconnais dans ce personnage, dans son histoire, son caractère, son tempérament ». Et je crois que si j'étais une fille, je devrais m'appeler Marthe. Parce qu'il y a un personnage qui me marque, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est Marthe. Et je vous propose qu'on s'arrête sur ce personnage de Marthe, sur deux épisodes de sa vie. Et on va voir comment des clés, je crois, pour une année réussie avec Marthe. Le premier épisode que je vous propose de voir, c'est Marthe au quotidien. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Luc, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marthe a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. Et personnellement, j'ai tendance à me reconnaître dans le personnage de Marthe. Peut-être d'autres, ce sera le personnage de Marie. Mais moi, en tout cas, je me reconnais dans ce tempérament à faire des choses, à être dans l'action, à rendre service. Et je me dis que si Marthe a été avec nous aujourd'hui, ce serait peut-être le genre de personne à dire, quand on lui demande comment ça va, à dire « je suis fatigué, mais ça va ». C'est la course, mais on fait aller. Personnellement, c'est des phrases que j'utilise souvent. On se reposera au paradis. J'ai du mal à prier parce que je suis toujours en train de faire quelque chose, je suis un peu hyperactive. Et finalement, je prends cet exemple-là, mais j'ai l'impression qu'on vit globalement dans ce que j'appelais avec les jeunes il y a quelques mois, une génération Marthe. Pour deux raisons principales. Une génération Marthe parce que j'ai l'impression que dans notre société, notre identité est beaucoup basée sur ce qu'on fait. Quand on rencontre quelqu'un, souvent on lui demande « comment tu t'appelles ?» Et la deuxième question, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On définit notre identité sur ce qu'on fait, notre métier, notre activité. Et un mot aussi qui revient beaucoup, que moi-même j'utilise souvent, c'est le mot productivité. On cherche à produire, à faire plus, en moins de temps et à toujours produire plus de choses. Et deuxième aspect de cette génération Marthe, c'est qu'on a du mal à se poser, à s'arrêter. On a toujours notre téléphone dans la poche qui sonne, que ce soit le boulot ou autre chose. On a toujours plein de choses à faire, à regarder la liste Netflix, pour ceux qui ont Netflix, qui ne cesse de se rallonger. Et on a du mal à juste faire silence, à se poser, à juste ne rien faire ou ne rien consommer. Et pas de culpabilisation, je pense qu'on galère beaucoup avec ça. Alors moi, une de mes réflexions, c'était de dire, mais pourquoi ne pas s'arrêter? Pourquoi Marthe ne s'arrête pas? Et j'ai lu ma Bible et j'ai aussi lu différents livres qui m'ont inspiré sur cette question. Pourquoi Marthe ne s'arrête pas? Première hypothèse, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais peut-être que Marthe, elle est juste surchargée de travail. Et peut-être que Marthe, c'est ce genre de personne, peut-être que quelques-uns se reconnaîtront, qui aime rendre service, qui ne savent pas trop dire non, et qui du coup se prend des engagements, en plus elle a ses propres projets, et puis quand les gens, quand elle a des invités à la maison, elle veut tout bien faire parfaitement, et elle est surchargée, et elle a du mal à s'arrêter. Peut-être que c'est ça. Peut-être un peu plus en profondeur, que Marthe est une personne anxieuse, et que du coup le fait de faire plein de choses, elle arrive à garder le contrôle. Elle se dit, si je me tue à la tâche, si je fais tout bien, eh ben, au moins j'ai une sensation de contrôler la situation et ça m'évite de faire face à mes peurs et à mon anxiété. Troisième possibilité, peut-être. Marthe ne réalise pas qui est Jésus. Peut-être qu'elle ne réalise pas l'importance du moment qui est en train de se passer. Elle a juste le roi de l'univers dans son salon. Et d'un côté, elle veut bien le recevoir, ce qui se comprend, mais elle ne réalise peut-être pas que ce qui est vraiment important là, c'est de s'arrêter avec lui. Que c'est juste un privilège immense que Dieu veuille une relation avec elle et avec nous, du coup, dans le même élan. Qu'elle ne réalise pas tout ce que les paroles de Jésus pourraient lui apporter si seulement elle s'arrêtait. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une quatrième option. Elle fuit les questions profondes et dérangeantes. Et je vais lire un extrait d'un des livres qui m'a touché cet été, « Devenir un leader émotionnellement sain » de Peter Scazzero, que je ne peux que vous recommander. Et dans ce livre, à un moment, il parle de la notion de sabbat. Le sabbat, on réserve un jour pour s'arrêter, ne rien produire, ne rien faire, et passer du temps avec Dieu. Et Peter Scazzero, donc il y a cette notion de s'arrêter, et voilà ce qu'il va nous dire. Le sabbat, donc le fait de s'arrêter, peut être terrifiant. Parce que ne rien faire de productif nous donne un sentiment de vulnérabilité. Nous pouvons nous sentir émotionnellement exposés et nus devant Dieu et devant les autres. Le surménage dissimule ces sentiments d'inadéquation ou d'inutilité, non seulement venant de la part des autres, mais aussi de nous-mêmes. Aussi longtemps que nous restons occupés, nous pouvons couvrir cette voix intérieure qui nous dit des phrases comme « Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez sûr. Je ne suis pas assez parfait. Je ne suis jamais assez extraordinaire. Je n'ai jamais assez de réussite. » Reconnaissez-vous cette voix? Peut-être que Marthe, elle a du mal à s'arrêter, c'est parce que son identité est tellement dans le fait de servir les autres et de faire des choses que si elle s'arrête, elle va être confrontée à elle-même. Elle va finalement perdre le sens de pourquoi elle existe, pourquoi elle est là. Je ne sais pas vous, moi personnellement, je me retrouve dans les quatre. Peut-être dans aucune des quatre, vous vous reconnaissez, peut-être dans certaines. Mais la question peut-être que j'aimerais qu'on se pose, c'est « Et nous ?» Et toi, pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Alors je ne suppose pas que tout le monde a du mal à s'arrêter. Peut-être pour certains parmi nous, c'est facile. Mais peut-être pour des gens comme moi, c'est pas facile. Qu'est-ce qui peut être un frein pour passer du temps avec Jésus? Et je note comment Jésus parle de cet aspect de la relation, du fait de s'arrêter à ses pieds. La réponse, elle est sans appel. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule. Donc, sous-entendu, tout le reste n'est pas vraiment nécessaire. C'est un peu dur dit comme ça. Rien d'autre n'est vraiment nécessaire. La seule chose nécessaire pour mon épanouissement, c'est le temps passé avec Jésus. C'est connaître Dieu. C'est ce qu'on peut appeler l'intimité avec Dieu. L'écouter nous parler et aussi lui partager par la prière ce qu'on veut lui dire. Il y a quelqu'un dans la Bible qui en a parlé un peu autrement, c'est l'apôtre Paul dans un texte que je trouve vraiment excellent. Et Paul, dans le contexte, il parle de tout son héritage familial, culturel et de toutes ses réussites aussi, de tout ce qu'il a fait dans sa vie et surtout du fait comment il a bien respecté ce qu'on appelle la loi, la Torah, tous les commandements de Dieu. Et Paul, il dit, j'étais irréprochable à ce niveau-là. J'ai fait et j'ai bien fait. Mais voilà comment il en parle après.
ces choses qui étaient pour moi des gains, toute la réussite, toute la productivité, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
Et ça me fait penser à cette histoire, c'est ma grand-mère qui m'avait raconté ça un jour, donc c'est une histoire de grand-mère, ça fait toujours bien quand on introduit comme ça. Et donc cette histoire, elle me parlait, c'est une missionnaire qui avait l'habitude de passer du temps avec Dieu. Elle allait sur une montagne, elle passait son temps, et puis c'était une femme qui avait l'habitude que Dieu lui parle d'une manière ou d'une autre, que vraiment, soit dans son lecture de la Bible, soit au travers d'une pensée, et elle avait cette habitude-là. Et puis un matin, elle passe son temps avec Dieu sur la montagne, et rien ne se passe. Elle lit la Bible, ça ne lui parle pas forcément, elle écoute Dieu, rien de spécial, et puis elle redescend un peu frustrée. Elle se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et si je lis entre les lignes, j'ai envie de dire que ce n'était pas rentable, entre guillemets, ce moment. Je suis venu passer du temps avec toi, mais je n'ai rien reçu. Et partager que c'est comme si le Saint-Esprit était venu dans son cœur lui murmurer, moi, j'étais juste content d'être là avec toi. J'étais juste content qu'on passe ce moment ensemble. Dieu désire qu'on passe du temps avec lui. Et Jésus nous appelle à l'intimité avec lui. Et je crois que c'est une des clés pour une année réussie, c'est d'arriver à s'arrêter, si c'est réellement la seule chose qui est vraiment nécessaire. Alors je voudrais nous partager quelques pistes à la fin de ce premier épisode. Comment ralentir? Comment faire pour s'arrêter sereinement, sans trop culpabiliser? Première piste qui me semble intéressante, me rappeler mes limites. Je pense à Jésus, qui était Dieu, juste Dieu fait homme, donc ce qui n'est pas rien quand même, qui a attendu ses 30 ans pour commencer son ministère terrestre. C'est-à-dire pendant 30 ans, des gens étaient malades, des gens mouraient, des gens n'entendaient pas l'évangile, mais Jésus a malgré tout pris le temps. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais il a pris le temps. Jésus, pareil, et même pendant son ministère, il prenait le temps de s'arrêter avec le Père sur la montagne, dans le désert, de prendre du temps seul à seul avec Dieu. Donc si Jésus le faisait, à combien plus forte raison j'en ai besoin, nous en avons besoin? J'ai lu une phrase toute simple cet été, qui paraît tellement évidente, mais qui m'a pourtant parlé, c'est « Laisse Dieu diriger le monde. Laisse Dieu s'occuper. » En fait, le monde n'a pas besoin de nous pour tourner. On n'a pas besoin de répondre à tous les besoins, tout le temps. On peut dire non, on peut dire stop, on peut faire moins. C'est Dieu qui gère. Deuxième clé qui me semblait importante, me rappeler que mon activité n'est pas mon identité. Contrairement peut-être à ce qu'on peut entendre ou à ce qu'on peut avoir dans notre culture ambiante. Mon identité, elle est en Christ. Dans le fait que Dieu m'aime, que je fasse quelque chose ou pas. J'ai une citation encore hier. Le principe du sabbat, d'une certaine manière, c'est dire que je peux ne rien faire, ne rien produire une journée, et Dieu m'aime encore. Et il m'aime parce que je suis son enfant. Et la dernière chose, on l'a déjà évoqué, mais me rappeler qu'une seule chose est vraiment nécessaire. Si je parle pour moi, mon ministère, il n'est pas nécessaire. Mon sport, mes jeux vidéo, je ne sais quoi, c'est pas nécessaire. C'est utile. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, hein. Mais c'est pas nécessaire. La vraie chose qui donne du sens au reste, c'est le temps que je passe avec Jésus. Ça, c'était le premier épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième épisode? Ouais. Je vous propose Marthe, cette fois dans la crise. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'une année s'ouvre et il est très très probable que nous rencontrions des crises, à différents niveaux. Peut-être pas des grosses crises, peut-être des petites crises relationnelles ou familiales. On vit dans un contexte où on parle de crise économique, écologique, et je ne veux pas rabâcher toute la négativité ici, mais il y a des crises dans la vie. Et cette année, nous allons rencontrer des crises. Et j'aimerais qu'on voit comment Marthe, et surtout comment Jésus, réagit dans la crise. Et cette fois, on va voyager dans Jean, chapitre 11, versets 1 à 6 pour commencer. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. »
Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait.
Je lis le texte, jusque-là ça semblait logique et
on termine là-dessus. Il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Comment ça? Il y a une urgence, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Et je note le calme de Jésus, en contraste avec Marthe juste avant. La situation est grave, c'est urgent, mais Jésus ne court pas. Et si nous suivons un Jésus qui ne court pas, pourquoi parfois nous courons? Je le dis à moi en premier. Pourquoi des fois je cours alors que Jésus, il n'est pas pressé? Il y a la pression autour de lui. Autour de lui, il y a le désordre, il y a la pression, mais en lui, il n'y a pas de désordre. Il y a la paix. À JPC, à Jeunesse pour Christ, là où je travaille à mi-temps, il y a notre directeur qui souvent nous répète cette phrase, il dit « Il n'y a que le diable qui est pressé ». Sous-entendu parce qu'il sait que son temps est compté, qu'à un moment il ne pourra plus agir comme il le fait maintenant. Jésus n'est pas pressé. Et c'est la première chose que je voulais souligner. Jésus n'est pas pressé, il est au contrôle dans la crise. Et là on a Marthe qui arrive. On passe quelques versets dans le texte puis on en retrouve Marthe. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Je me répète, je me reconnais beaucoup avec Marthe. Pourquoi cette fois? Elle traverse une situation tragique. Elle est dans le deuil. Et on vit tous des deuils, deuil d'un proche en l'occurrence, mais ça peut être d'une relation, d'un rêve, d'un projet, de toutes sortes de choses. On peut avoir plein de deuils dans la vie. Et Marthe, elle vient voir Jésus avec sa compréhension des choses, son plan. Voilà, mon frère est mort, la Bible me dit, elle a la bonne théologie en quelque sorte, qu'il va ressusciter au dernier jour. En fait, elle a raison. Elle a une bonne lecture. Et pourtant, Jésus va quand même la surprendre. Jésus ne va pas faire comme elle l'imaginait. Et tellement de fois, je sais pas vous, mais moi je vais en voir Dieu, puis j'explique et je dis, je pense que j'aurais besoin de ça, donc est-ce que tu peux me donner ça, est-ce que tu peux faire comme ça? Et puis si souvent Dieu ne me répond pas comme j'avais demandé, il me répond mieux, autrement. Et Jésus avait un autre plan pour révéler sa gloire à Marthe, Marie et aux autres. Alors Jésus continue. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Je ne sais pas si ça se passe combien de temps après notre premier épisode, mais on voit qu'entre-temps, Marthe, elle a appris à connaître Jésus. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est et si Jésus, cette année, voulait nous surprendre comme Marthe? Répondre d'une manière qui ne soit pas ce qu'on attend à nos prières. Révéler sa gloire d'une manière différente que prévu. Je ne sais pas si je vous spoil la fin de l'histoire. Non, je vais dire ça après. Bon, vous la connaissez, mais on va essayer de maintenir le suspense. Deuxième attitude de Jésus dans la crise. Il ne rentre pas dans nos boîtes de compréhension, de oh, la solution, ça va être ça. Des fois, Dieu répond à nos prières telles qu'on l'imagine. Mais je remarque très souvent, Jésus nous surprend. On continue le texte. « Où l'avez-vous enterré » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Une petite remarque juste au passage. C'est pas parce que Jésus prend son temps qu'il est indifférent à ce qui se passe. Et parfois, on est dans l'incompréhension, on attend que Dieu réponde à une situation et ça tarde, et on se dit « Dieu, il ne m'entend pas, il ne fait rien ». Dieu a ses raisons, mais il est certainement jamais indifférent. Il est plein de compassion. Et ça me touche de voir que Jésus, qui sait ce qu'il va faire, il sait qu'il a la solution, mais il dit quand même, il est touché par ce qui se passe. Et on va arriver à la dernière section, au dénouement de cet épisode. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Ça fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Amen. Et je me dis, nous, on lit ça des fois, et puis moi j'ai entendu cette histoire, puisque je suis à l'école du dimanche depuis tout petit, je pense que je ne suis pas le seul. Mais en fait, c'est fou ce qui vient de se passer. Il y a quelqu'un qui était complètement mort, qui est revenu à la vie. Et Jésus s'est servi de cette crise pour se glorifier et se révéler. Et je crois que c'est, d'une certaine manière, le but, souvent, des crises que l'on traverse. C'est que Jésus vienne se révéler et se glorifier. Et je vais juste préciser, ici, Jésus se glorifie au travers d'une résurrection. C'est un truc extraordinaire, sensationnel, excellent. Je pense qu'on aurait tous envie de voir ça un jour ou l'autre. Mais il aurait pu se glorifier de 1000 manières différentes. Il a choisi ce moyen-là, à ce moment-là. Il y a d'autres circonstances où ça se passe différemment. Et il y a plein d'exemples dans la Bible où il n'y a pas de résurrection. Mais Jésus se glorifie autrement. Et la question, je crois, qu'on peut se poser dans les difficultés qu'on rencontre, c'est « Seigneur, comment tu veux te glorifier dans ce moment ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ?» Et la conclusion de ces deux épisodes, c'est que je crois que pour une année réussie, avec Marthe pour exemple, il y a deux choses qu'on peut retenir. C'est qu'au quotidien, mon année serait réussie si j'apprends à connaître Jésus. Si je m'arrête à ses pieds et que je pratique la seule chose qui soit vraiment nécessaire. Et si j'apprends à connaître Jésus dans mon quotidien, je crois que c'est là où quand les difficultés de la vie vont arriver, et ben je pourrais me rappeler, je pourrais connaître Jésus, qui il est, et me dire que c'est Jésus, il peut me surprendre. Il peut agir différemment que ce que je peux penser ou imaginer. Et j'aimerais nous inviter simplement à prier, à remettre cette année entre les mains de Jésus et à lui demander, attire-nous à toi, donne-nous soif de passer du temps avec toi. Et puis peut-être dans la tempête que je suis en train de traverser, glorifie-toi d'une manière ou d'une autre et puis on prendra un chant après pour répondre à tout ça. Père, je te remercie pour ta parole qui est tellement encourageante. Et merci de te révéler à nous, de nous permettre de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et Jésus disait qu'il savait qu'il allait être exaucé, tellement il était aligné à ta volonté. Il savait qu'il serait exaucé quand il demande quelque chose. Je ne peux pas en faire de même, mais je peux juste te demander, parce que je crois que c'est ta volonté, qu'on s'approche de toi cette année. Donne-nous soif de passer du temps en ta présence, d'être à tes pieds. Donne-nous soif de développer notre relation avec toi. Et dans les crises, dans les tempêtes que nous allons rencontrer, apprends-nous à être à ton écoute et à voir que tu veux te glorifier d'une manière ou d'une autre. Donne-nous d'avoir cette paix, ce calme que toi tu dégages tout au long de l'évangile et encore aujourd'hui par ton esprit, cette paix que tu donnes. Que réellement cette année 2024-2025 soit une année où on sera surpris et où on verra ta gloire d'une manière ou d'une autre. En ton nom j'ai prié. Amen.